plus du Seigneur. Il y a des expériences que l'on peut vouloir. On peut dire au Seigneur, fais ceci dans ma vie, fais cela. Est-ce que vous croyez qu'on peut vouloir faire des expériences qui ne sont pas dans la volonté de Dieu? Ben oui. Par contre, on ne soupçonne pas qu'il y a des expériences que Dieu veut que nous fassions. Et cela, on ne penserait pas les demander. Les apôtres vont faire une expérience qu'ils n'avaient pas demandée. Marc chapitre 6, verset 45. Marc 6, 45. Donc, aussitôt après quoi, la multiplication des pains. Ça devait être extraordinaire d'avoir participé à une expérience aussi grande. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car, regardez bien cette phrase, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. On se demande ce que fait cette parole à la fin de cette expérience. Vous êtes d'accord avec moi? On a l'impression, paf, que c'est une parole qui a été déplacée. Qu'est-ce que cette parole fait dans cette affaire? Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. C'était des chrétiens ou c'était pas des chrétiens, ces disciples? C'était des chrétiens. Et pourtant, leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris quelque chose qu'ils auraient dû comprendre avant, à savoir que Dieu n'avait pas multiplié les pains que pour multiplier les pains. Dieu avait multiplié les pains pour leur montrer qu'il était le pain de vie. D'ailleurs, cette histoire est reportée dans Jean au chapitre 6, d'ailleurs on peut y aller, la même histoire, et il y a l'enseignement justement dans Jean au chapitre 6, il y a cette même histoire, il y a eu au début du chapitre 6 la multiplication des pains, et après, à partir du verset 22 jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à la fin du chapitre, qui est un long chapitre, Jésus explique que c'est bien une expérience. C'était magnifique que Dieu ait multiplié le pain. C'est un truc hallucinant. D'ailleurs, quand on n'est pas vraiment croyant, ou quand on ne croit pas que Dieu est puissant, on peut douter de cette expérience. Et dans cette, Jésus va leur expliquer ces choses. Voyez, on va lire quelques versets qui nous intéressent. 6:32. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Par exemple, verset 48, je suis le pain de vie. Et Jésus explique dans tout ce chapitre que le problème, c'est pas de faire une expérience aussi belle soit-elle que d'avoir participé à la multiplication des pains. Vous vous rendez compte, à partir de 5 pains et 2 poissons, le Seigneur Jésus a nourri des milliers d'hommes et de femmes. Alors les gens, ils étaient certainement subjugués par le miracle, mais derrière le miracle, il y avait une leçon spirituelle. D'ailleurs, derrière chaque expérience, il devrait y avoir une leçon. Derrière chaque expérience personnelle, on devrait en dire, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire en même temps? Quand Dieu guérit un malade, il y a l'expérience de la guérison. Mais vous ne croyez pas qu'il y a autre chose derrière? Il y a peut-être la miséricorde de Dieu. La personne peut être focalisée sur la guérison, Dieu m'a guéri, mais peut-être que la personne devrait voir l'intervention de Dieu sur la personne pour l'amener à réaliser qu'elle doit s'occuper de son éternité. Voyez? Et là, ils n'avaient pas compris. Ils avaient fait une belle expérience, mais leur cœur était endurci. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on fait des expériences que notre cœur est tendre à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est même dans la présence de Dieu que notre cœur est sensible aux choses spirituelles. Pour que notre cœur soit sensible, eh bien, il faut l'ouvrir, son cœur. Ce soir, votre cœur est-il ouvert? Est-ce que vous dites, moi, mon cœur, Seigneur, il est pris comme une éponge. Je suis prêt à pomper tout ce que tu as à me donner. Alors, votre cœur, il ressemble à une éponge ou à un granit du Cidobre? Puisque je vois qu'il y a une fille, j'ai vu une fille du Cidobre. Voilà. Elle est où? Je l'ai vue tout à l'heure. Ah, elle est là. Ah. Votre cœur est-il comment? Donc, Jésus va vouloir les amener à faire une autre expérience où ils vont se retrouver seuls. Jésus aurait pu les accompagner. Ils étaient toujours avec lui. Mais là, il se retire, physiquement, il se retire, que physiquement. Il se retire dans cette affaire et il les oblige à monter dans une barque, à traverser la mer. Bon, ça venait de Dieu. Il fallait, bien sûr, l'accepter. Et lui, il était sur la montagne pour prier. Je crois que cette affaire-là, cette histoire, nous montre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans la mer de ce monde, hein, l'humanité dans cet océan, et le Seigneur, il est sur son trône et il prie. Est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous? Est-ce que vous le saviez, ça? Je me souviens, la première fois, j'avais chanté un cantique. Vous savez, il intercède pour nous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il écrit? Je ne savais pas que c'était écrit dans la Bible. Je me suis dit, mais comment ça? Dieu, il prie pour nous? N'importe quoi. Donc, la première fois que j'ai chanté ce cantique. Et puis, c'est écrit dans la Bible que le Seigneur, il intercède pour nous. Vous voyez, même si vous avez quelqu'un qui oublie de prier pour vous, lui ne doit pas oublier. Moi, je vous le dis. Il pense à vous, le Seigneur. Et cette histoire, elle est là pour nous montrer un petit peu comment ça se passe. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles dans la vie. Hein. Mais voyez, moi, ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est les deux premiers mots du verset 48. Franchement, ce matin, quand je priais, d'ailleurs, quand je priais, ce sont ces deux mots qui me sont venus à l'esprit. Et j'ai compris que c'était bien que je partage cette histoire ce soir. Il vit. Il vit. Eh bien, il vit ce qui se passait. Qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Je ne sais pas si ça vient de là, l'expression « ramer hein ». Il y a des gens qui disent « je rame ». Je ne sais pas si ça vient de là. Mais ça, c'est possible. Enfin, ce n'est pas important, ça. En tous les cas, ce qui était important, c'est que le Seigneur voyait où ils en étaient. Est-ce que ça vous rassure de savoir que Jésus sait où vous en êtes? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Le regard du Seigneur. Jésus, il voit. Dans la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, je pense à ce texte, dans Luc, quand il dit « Jésus voyant leur foi ». Mais Jésus, des fois, quand il voyait les gens, il ne voyait pas que la foi. Il voyait la dureté des pharisiens. Jésus savait ce qui se passait dans le cœur. Alors, est-ce que Jésus peut bénir quelqu'un qui a la foi? Est-ce que Jésus peut bénir quelqu'un qui a le cœur dur? Moi, je crois que Dieu peut bénir quelqu'un, même si son cœur est dur. Parce que Dieu peut attendrir le cœur de quelqu'un. Dieu peut-il attendrir le cœur de quelqu'un? Oui. On n'en a pas vu des gens qui étaient méchants, mauvais, durs, et Dieu les a attendris. Ils sont rentrés rebelles, ils sont rentrés blasphémateurs, ils sont ressortis tout tendres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ouvert leur cœur. Et là, vous voyez, nous avons quand même une explication, quand même, leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris. Ils s'étaient certainement réjouis, je ne sais pas. Peut-être qu'avant que la tempête ne se lève, peut-être qu'ils n'ont fait que parler que de ça. Mais tu te rends compte ce que le Seigneur, il a fait. Bon, il n'arrête pas de nous étonner. Je ne sais pas, pendant une heure, c'était 3 heures du matin, que là, ça allait mal, là, ils ne pensaient plus au pain. Mais je veux dire, quand ils sont partis, mais tu te rends compte. Nous, on était prêts à renvoyer les gens, nous, on ne sait pas quoi faire. Il est vraiment bon, notre Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on est capable d'exprimer certaines bénédictions que Dieu fait que notre cœur est sensible. Et il faut comprendre ce que Dieu veut. Ce soir, je crois que Dieu peut vous faire faire une expérience extraordinaire. La même. Vous n'êtes pas dans un bateau, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez est peut-être terrible. Il n'y a personne qui sait les tempêtes que l'on peut traverser. Oui ou non? Moi, je peux vous dire que j'ai traversé une tempête dans ma vie, tempête spirituelle. Personne ne le savait. Personne ne pouvait s'en rendre compte. Mais intérieurement, j'étais ballotté à tout vent. Et Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Je n'avais pas compris certaines expériences. Je n'avais pas compris quand je lisais « Ne vous inquiétez de rien ». Je n'avais pas compris. Je le prêchais. Et je le prêchais, je n'étais pas du tout en état d'hypocrisie en le prêchant. Mais je n'avais pas compris
combien c'était un commandement que Dieu donne pour que l'on puisse être en paix. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Seigneur, il sait où vous en êtes ce soir. Et lui, il sait ce qu'il faut faire pour calmer votre cœur. Est-ce que vous croyez qu'il peut calmer votre cœur ce soir? Est-ce qu'il a le pouvoir, le Seigneur, de calmer votre cœur? Ou est-ce qu'il a le pouvoir de calmer que les situations des autres qui sont pénibles? Comme cette femme, un jour, je me rappelle, j'étais en train de faire un appel. Je terminais la réunion et je fais un appel. Je dis, voilà, si quelqu'un est malade, qui se lève et qui vient, on va prier pour lui. Et il y a deux femmes qui se sont levées. Une était presque devant et l'autre était au milieu de l'église. Et puis, celle qui s'est levée en second, quand elle a vu la première qui se levait, elle s'est rassise. Moi, j'ai rien dit, je me préparais à prier pour la personne. Et à la fin, elle est venue me trouver, elle me dit, vous savez, monsieur, quand j'ai vu cette dame se lever, je me suis dit, bon, le Seigneur, il va en bénir une, mais est-ce qu'il peut en bénir deux? J'ai dit, deux, et trois, et quatre, et un peu plus. Mais la femme, elle pensait que, vous voyez, le Seigneur allait s'intéresser à cette dame qui elle la connaissait, dont elle savait qu'elle était beaucoup plus malade qu'elle, voyez. Vous voyez cette conception que l'on a de Dieu. Est-ce que vous avez cette conception d'un Dieu limité ou est-ce que vous avez cette conception que Dieu est grand et que ce soir, il veut vous bénir? Cette histoire, elle est là pour nous montrer que Dieu, il nous voit. Il voit, il a vu la foi de ces quatre qui ont descendu le paralytique sur par le toit. Il y avait des obstacles. Ces hommes, ils ont dit, c'est pas possible. Jésus est béni, il faut trouver un moyen, une astuce. Et ils l'ont trouvé et ils l'ont descendu. Ils n'ont pas eu peur de perturber la réunion. Moi, j'aurais pas osé. Moi, j'aurais pas osé, là. Jésus est en train de prêcher, à lever les tas de comment ça s'appelle? C'était du, les toits, ils étaient faits avec du branchage, vous savez. Et moi, je me vois pas en train de dire, Seigneur, on arrive. Attention, déplace-le. Moi, j'aurais pas osé. Il me semble que j'aurais pas osé. Mais ils l'ont fait. Et Jésus, il a appelé ça la foi. Nous, on appelle ça le dérangement. Hein. Moi, je voudrais appeler ça le désordre. Pour moi, c'était des gens désordonnés. Mais quand Jésus parle, il dit non, c'est la foi. Ça encourage. Hein? Voyant leur foi, il dit à cet homme, en plus d'un paralytique, tes péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Il s'occupe. Cet homme, en vérité, il n'était pas venu que pour sa paralysie, il était venu pour le pardon de ses péchés. Vous voyez, nous on peut se faire avoir, on peut voir un malade venir, tiens lui, il vient parce qu'il est malade. Mais c'est peut-être pas vrai, peut-être qu'il vient pour le pardon de ses péchés. Voyez, et ça nous rassure de savoir que nous, on se trompe, mais que le Seigneur, lui, il ne se trompe pas. Il ramait, je ne sais pas depuis combien de temps, il ramait, mais Jésus à la verreux. Vous avez vu ce qui se passe dans cette affaire au verset 48, à la fin du verset 48, bon c'est vrai que le Seigneur, il a attendu un moment. Il a attendu 3 heures du matin. Nous, on aimerait que Jésus intervienne de suite. C'est pas vrai? Quand est-ce que vous voulez que Jésus intervienne? Au début de vos problèmes? Au milieu de vos problèmes, ou quand c'est le moment in extremis où la barque va couler? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Avant les problèmes. Ah, Arnaud, il est fort, Arnaud. Hein? Avant les problèmes. Ouais, mais si le Seigneur intervenait toujours avant les problèmes, on ne ferait aucune expérience avec lui. Hein? Et peut-être que notre foi serait peut-être très vacillante. Tandis que quand plus on fait d'expérience, plus notre foi grandit. C'est vrai. Vous avez vu ce qui se passe à la fin du verset, donc c'est quand même 3 heures du matin, c'est le milieu de la nuit. Jésus va vers eux, marchant sur la mer, et il voulait le dépasser. On se demande des fois comment le Seigneur s'y prend. On a l'impression qu'il voulait passer sans s'arrêter. Hein? Alors en plus, voyez la superstition, comment ça peut revenir. C'était quand même les apôtres. Hein? Et quand ils ont vu Jésus marcher, bon c'est vrai que c'est pas quand même courant, hein? C'est vrai. Mais ils crurent que c'était un fantôme. Vous voyez, ils savaient. Vous voyez les superstitions, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ils ont cru que c'était un fantôme. Pourquoi? Enfin, les commentaires que j'ai lus expliquent que certains disaient que quand ils allaient mourir, vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit ils étaient, ils voyaient un fantôme. Vous voyez, donc ils ont dû dire, ça y est, on va mourir. Vous voyez, c'est Jésus qui s'approche et eux, ils ont encore plus peur. Ce soir, est-ce que vous avez peur du Seigneur? Vous savez, quand on ne comprend pas comment le Seigneur va s'y prendre, on est perturbé. Et pourtant, c'est le Seigneur qui s'approchait d'eux. Ils étaient vraiment perturbés. Ils étaient dans la frayeur, comment c'est écrit. Ils poussèrent des cris. Qu'est-ce que j'aimerais avoir la vidéo de ce truc, hein? Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris, ils le voyaient tous, ils étaient troublés.
Ça aurait été bien si c'était filmé, mais il n'y avait pas, à l'époque, ce qu'on a aujourd'hui.
Mais quelle histoire, quelle histoire. Ils sont troublés, ils ont peur, ils ne s'imaginent pas que Jésus peut les rejoindre. Peut-être que vous dites, mais est-ce que Jésus peut venir dans ma vie? Il y a des gens, ils ne croient pas que Jésus peut les rejoindre. C'est trop tard, il y a eu trop de péchés, il y a eu trop d'erreurs. Vous croyez que ça empêche Jésus de vous rejoindre, vos erreurs? Pourquoi Jésus a voulu cette histoire? Pour nous montrer qu'il pourrait nous rejoindre partout. Alléluia. On peut le dire. Alléluia, de temps en temps. Alléluia. Ouais, on peut le dire. C'est pas vrai? Est-ce que vous savez que ce soir, Jésus peut vous rejoindre? Là où personne ne peut vous rejoindre. Personne, aucun homme, aucune situation, aucun moyen, le Seigneur, il peut vous rejoindre. C'est ça que ça veut dire. Là, en plein milieu, là où vous avez peur, là où vous allez même vous tromper sur la façon dont le Seigneur pourrait intervenir, qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Mais qu'est-ce qu'ils ont dû se passer? Ils ont dû penser peut-être à Jonas. Ah, il y a un Jonas parmi nous, il faut le jeter par la barque. Qu'est-ce qu'on pense dans les tempêtes? À quoi vous pensez, vous, dans les grandes épreuves? Vous avez quelqu'un à pécher, c'est pas possible. À quoi on peut penser quand on est dans l'épreuve? Il s'en passe des choses dans la tête, c'est pas vrai? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il nous arrive encore une tuile? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, on n'a rien fait. Des fois, on a simplement obéi à Dieu même. Ils avaient obéi à Dieu. Il y a 4 tempêtes dans la Bible, 4. Sur les 4, il y en a 3 qui sont vraiment dans la volonté de Dieu. La seule tempête où un homme n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est Jonas, qui est en train de fuir. Mais les 3 autres tempêtes, ils sont vraiment dans la volonté de Dieu. Comme quoi, on n'a pas à dire à quelqu'un, parce qu'il traverse une épreuve, ah ben, s'il traverse une épreuve, il doit être... Moi, j'ai entendu une journée chrétienne qui a dit ça. Quand quelqu'un traverse une épreuve, une tempête, c'est un Jonas. Il fuit la volonté de Dieu. Mais voyez, quand on ne connaît pas la Bible, on dit n'importe quoi. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Dieu voulait leur enseigner quelque chose qui nous rejoindra toujours, même si on ne s'y attend pas. Parce que je ne pense pas qu'ils s'y attendaient, voyez. Et le Seigneur les a rejoints. Vous ne vous attendez pas à Dieu? Vous dites, j'en ai trop fait? J'ai mal parlé? J'ai jugé mon frère? J'ai jugé ma sœur? Le Seigneur, il les a vus. Il les a vus de la montagne où il était, il les a vus. Dieu, de son ciel de gloire, et la Bible dit qu'il voit tous les hommes. Il voit tous les hommes, il vous voit. Il vous aime, il veut vous rejoindre, il veut rentrer dans votre barque. Alors comment le Seigneur peut-il rentrer dans la barque de notre cœur? Eh bien, en acceptant. Seigneur, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Eh bien, il faut croire, puisque Dieu dit croit. Nous, moi je trouve qu'on est quand même un petit peu compliqué. Le Seigneur, il y a des gens, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Mais crois. Il faut croire que Jésus, il est vivant. Puisque la Bible le dit, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il s'intéresse à nous. La preuve, c'est qu'il veut vous rejoindre. Est-ce que vous allez le laisser s'approcher de vous? Est-ce que vous allez ce soir lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, tempête ou pas tempête? Parce qu'on peut inviter Jésus quand tout va mal, mais aussi on peut le réinviter quand tout va bien. Il y a des gens qui marchent avec Jésus quand tout va bien. Ou il y a des gens qui marchent avec Jésus quand tout va mal. On le sait, nous, en tant que pasteurs, il y a des gens qui viennent à l'église quand tout va mal. Et quand tout va mal, ils vont bien avec Dieu. Et c'est vrai ce que je vous dis. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Il y a des gens, ils vont bien avec Dieu quand tout va bien. Et je crois qu'on devrait en tirer des leçons, dire non Seigneur, j'aimerais l'Éternel en tout temps. En tout temps, ce n'est pas quand il fait beau et quand il pleut. En tout temps, ça veut dire quand tout va bien et quand j'ai des épreuves. J'aimerais l'Éternel en tout temps. Et là, cette histoire, elle est là. Il savait à quelle heure il fallait qu'il les rejoigne. Peut-être c'est l'heure pour vous. Dis Seigneur, je ne veux pas que tu viennes de temps en temps, je veux que tu sois tout le temps dans ma vie. Tout le temps. Est-ce que c'est une expérience qu'on peut faire? Est-ce que la Bible dit quelque part que notre corps peut devenir le temple du Saint-Esprit? Donc ça veut dire que le Seigneur peut être continuellement en nous. On le sent, on ne le sent pas. Moi des fois on me le dit, mais vous le sentez le salut? Je dis non, je ne le sens pas. Mais je le sais. C'est écrit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Vous savez, regardez ce verset dans 1 Jean. Ça arrive souvent lorsque les gens se convertissent, ils me demandent est-ce qu'il faut sentir le salut? Il faut le sentir.
Ce problème devait exister déjà dans l'Église primitive, puisque Jean, dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 13, à plusieurs reprises, il utilise ce verbe, dont le verbe « savoir ». Regardez, 1 Jean chapitre 5, je suis sûr que ce problème a toujours existé, que les gens, ils veulent sentir les choses alors qu'il faut les croire ou les savoir. 1 Jean chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sentiez ». C'est ça que vous avez ? Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et c'est sûr que si Jean écrit ça, c'est que des chrétiens devaient se poser la question, mais voyez, et il n'y a pas que là. Regardez au verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute ?» Au verset 18, « Nous savons quiconque est né de Dieu. » Verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. » On voit que dans cette épître, Dieu veut enseigner aux chrétiens de comprendre les choses, de les savoir, pas de les sentir. Nous le savons. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons qu'il est capable de nous rejoindre. Nous savons qu'il est capable d'intervenir. Et que même si vous êtes troublés ce soir, vous pouvez ressortir dans la paix. Ils sont dans la frayeur. Ils sont troublés. Ils pensent qu'ils vont mourir. Vous vous rendez compte ? Ils sont convaincus qu'ils vont mourir. Cette histoire de fantôme, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais c'est exactement ça. Ils sont convaincus qu'ils vont mourir. Pourquoi Jésus nous a-t-il laissés seuls ? Il est toujours avec nous, il voulait nous avoir avec nous, et là, il nous abandonne. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Des fois, on a l'impression que le Seigneur nous abandonne. On n'a jamais vécu ça. On a prié, mais Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Seigneur, pourquoi ? Vous savez, moi, quand je suis rentré de Tahiti, ça faisait 6 mois, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu as vécu toutes ces épreuves ? Et j'étais, vous savez, moi je lis la Bible mécaniquement, c'est-à-dire que je lis tous les jours, et j'étais dans le livre des Chroniques. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça ? 3 ans de tempête intérieure, 3 ans, jour et nuit. Et je lisais dans les Chroniques, on peut le lire si vous voulez, dans le deuxième livre des Chroniques, je lisais ce matin-là, je finissais dans ce chapitre, Mais le Seigneur m'a répondu. 2 Chroniques, chapitre 32. C'est la fin du verset 31. Mais moi, je savais que c'était une réponse. Je le savais. Pourquoi tant d'épreuves ? Alors que j'obéissais à Dieu, je veux dire. En plus, j'étais critiqué. Ça, c'était un problème, ça. Quand vous obéissez à Dieu et qu'on vous critique. Oui, s'il a des épreuves, c'est parce qu'il ne doit pas obéir à Dieu. Ah, ça fait plaisir, ça, vous voyez ? Enfin, bon, c'était comme ça. Et là, ce matin-là, je lisais ma Bible. Je ne me rappelais plus que j'avais prié dans ce sens. 2 Chroniques 32, la fin du verset 31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et c'est comme si le Seigneur m'avait dit, ben voilà, pendant 3 ans, je t'ai abandonné. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Vous savez, comme une maman qui, une fois que son enfant il commence à marcher, eh bien, elle le laisse partir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà. Il apprend. Il est là. Elle est là, la maman. Mais il apprend à marcher tout seul. Et Dieu permet parfois des épreuves pour nous apprendre. Il peut nous éprouver. Est-ce que Dieu savait ce qui était dans mon cœur ? Je pense. Mais vous voyez, là, le Seigneur, hop, il les a laissés partir. Il les a laissés partir. Il aurait pu. Il n'y a pas eu une autre tempête où Jésus était avec eux dans la tempête ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre tempête où Jésus est avec eux ? Vous voyez ? Alors il y a des tempêtes, on sait que le Seigneur il est là. Il y a des tempêtes, on a le sentiment que le Seigneur n'est pas là. Et il veut nous enseigner qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Et il veut voir notre foi. Dans une autre tempête, il leur a dit, mais où est votre foi ? Ils avaient quand même un peu prié puisqu'il l'avait réveillé. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? C'était une prière, puisqu'il parlait à Jésus. Est-ce qu'il priait ou est-ce qu'il ne priait pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les pasteurs ? Puisqu'il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? C'était une prière, mais ce n'était pas une prière de foi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que s'ils avaient eu la foi, ils auraient dit, de toute façon, on ne va pas noyer, on ne va pas noyer, il est là, on ne va pas mourir, couler, on ne va pas couler dans le lac. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas que notre cœur s'endurcisse parce qu'on ne comprend pas une expérience, parce qu'on ne médite pas, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse comprendre que le Seigneur, il voit tout et il sait ce qu'il faut faire et il sait quand est-ce qu'il doit le faire et il faut rester dans cette attitude de foi. Seigneur, ça fait, moi je trouve que ça fait trop longtemps. J'aurais préféré que tu arrives à 1h du matin.
Je ne sais pas s'il y en a un qui lui a dit, Jésus, c'est tard. Tu as vu quelle heure il est? Regarde, c'est 3 heures. Je ne pense pas que quelqu'un ait osé lui dire, bien sûr. Mais quelqu'un a dû le penser. C'est bizarre, ça. Tu aurais pu venir plus tôt. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Bon, ça a dû se terminer bien cette nuit. Est-ce que c'était bien la fin de la nuit? Ah, moi, je trouve que ça devait être bien. Et peut-être que leurs cœurs se sont attendris un peu plus. Ah non, mais c'est vrai qu'on a été bêtes. Qu'on a été bêtes. Il avait promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Ben, est-ce que Jésus va tenir parole pour vous aussi? Est-ce que vous pensez que Jésus va vous abandonner? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut dire, ah, moi, je doute trop? Non. Bien sûr qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Mais moi, je crois que si on reste attaché à Dieu, il saura nous rejoindre. N'importe où, n'importe quand. Cette histoire, elle est là pour que Dieu vous rappelle ce soir, n'importe où tu es, je peux te rejoindre. Alléluia. N'importe où, je peux te rejoindre et te montrer comment tu n'as rien, absolument rien à craindre. D'ailleurs, il ne leur fait pas de reproche. Il aurait pu, il avait le droit, puisque quand même c'était le Seigneur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que j'aimerais que vous gardiez cette parole dans votre cœur? Que le Seigneur vous dise, rassurez-vous, je suis là. N'ayez pas peur. C'est quand même bien. Hein? Puis il monta avec eux dans la barque. Et le vent, c'est ça. Instantanément, quelle affaire. Là aussi, dommage que ce ne soit pas filmé. Quelle affaire. Est-ce que vous voulez que le vent cesse? Il y a peut-être un peu de vent dans votre cœur. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des difficultés. Seigneur, ce soir, assis-toi à côté de moi. J'ai besoin de ta grâce. Ils étaient tous stupéfaits, remplis d'étonnement. Oui, ils n'avaient pas tout compris. Il fallait après que cette affaire-là qu'on ne comprend pas bien à la fin nous enseigne que bon, une expérience, c'est bien. Mais Seigneur, attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Pour que je puisse comprendre cette expérience que je viens de faire. Parce que là, ils auraient pu dire, ouais, c'est bien, Dieu est puissant. Mais vous ne croyez pas qu'ils s'en sont rappelés après quand ils sont partis, après quand Jésus les a dispersés en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous croyez qu'ils l'ont oublié, ça? Il y avait une leçon pour eux. Elle est pour nous aussi. Ils ont dû s'en souvenir. Peut-être qu'ils ont traversé des moments difficiles, amers ou autres. Je suis sûr qu'ils se sont souvenus que Jésus les avait rejoints. Et que Jésus ne les abandonnera pas. On termine avec ce verset où Dieu justement nous le rappelle dans Hébreux au chapitre 13. C'est important de comprendre ces choses. Ce sont des choses que Dieu a dites. Il les a dites. Comme on l'a vu mardi, ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et il sait ce qui est bon. Vous voyez dans Hébreux au chapitre 13, parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'était pour les 12. C'était pour les apôtres. C'était normal que Dieu les garde. Dieu avait besoin d'eux pour évangéliser la terre. Mais regardez ce que Dieu nous dit. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Et ce soir, au travers de mon ministère, si vous dites au Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mort sur le bois de la croix pour que ton alliance soit effective, pour que je sois avec toi, oui, vous pouvez dire, je sais que le Seigneur ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas, le Seigneur est mon aide. Il va vous aider, vous aurez besoin d'aide dans votre vie. Peut-être ce soir vous avez besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un veut de l'aide du Seigneur? Peut-être qu'on vous a appris à faire tout seul, tout vous-même. J'ai besoin de personne, on l'entend déjà. Je me débrouillerai tout seul. Bon, peut-être on vous a éduqué comme ça, mais j'ai le devoir de vous dire qu'il y a plein de choses. Vous ne vous arrangerez pas tout seul. Vous aurez besoin de quelqu'un. Et dans bien d'autres domaines, vous aurez surtout besoin du Seigneur. On ferme les yeux quelques instants. Dieu ne vous abandonnera pas. Seigneur, vous l'abandonnerez peut-être, parce que la Bible dit que dans la fin des temps, les gens abandonneront la foi. Mais jamais Dieu vous abandonnera. Ce n'est pas possible. Si vous l'abandonnez, vous choisirez de l'abandonner, mais ça ne viendra pas de lui. Qui a besoin d'aide? Qui a besoin de calme? Qui a besoin de faire une expérience particulière? Que Jésus vous rejoigne? là où vous ne pensez pas que ça soit possible. Dieu peut vous rejoindre ce soir. Dieu veut vous rejoindre. Dieu va vous rejoindre. Et mettre le calme dans votre vie. Là où vous voyez, vous, les fantômes des ténèbres, vous allez voir le Seigneur vous bénir. Vous rendez compte, en quelques secondes, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Quelques minutes après, dans le calme, ils devaient déborder de reconnaissance. Il était là, le Seigneur. Non, tu vois, il ne nous a pas abandonnés. Qu'est-ce que tu as dit qu'il ne viendrait pas ? Enfin, ça, c'est moi qui paraphrase. Qu'est-ce qui devait être heureux ? Combien je voudrais ce soir qu'on soit tous heureux de savoir que Jésus, il est dans notre barque. Même s'il y a eu un peu d'endurcissement, il est dans la barque. Et il vous dit, rassure-toi. Sois rassuré, je suis là. N'aie pas peur. On va prier. Si quelqu'un après veut que l'on prie pour lui, sachez que Dieu ne vous abandonnera pas. C'est une promesse. Vous la croyez ou la croyez pas. Je pourrais dire comme l'apôtre Jean, je veux que vous sachiez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Vous ne le sentez pas, je ne sais rien, mais je veux que vous le sachiez, dit le Seigneur. Il ne vous abandonnera jamais. Notre Père, tu nous as laissé ces histoires pour nous montrer combien il n'y a que toi qui peux faire certaines choses, qui peut rejoindre un homme désespéré. Tu sais quand est-ce que tu dois intervenir. Tu vois l'auditoire ce soir. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Au moment où tu veux, dans la situation que tu connais. Oh, quelle grâce, Seigneur, que de voir que tu ne viens pas vers nous pour nous accabler, nous condamner, nous juger, mais que tu nous rappelles continuellement qu'au calvaire, tu as versé ton sang pour que nos péchés soient effacés. Oui, tu vois. Tu voyais tes enfants, tu voyais ces amis du paralytique, tu voyais comment parler aux pharisiens, même si tu étais sévère pour les aider. Oui, tu nous vois ce soir, combien ça nous rassure. Combien nous sommes rassurés, Seigneur. Oui, nous te permettons d'agir ce soir dans nos vies. Oui, Seigneur, si notre petite foi est suffisante, nous savons que c'est ta grâce qui fait tout le reste. Alors ce soir, fais du bien. Tu vois celui qui a besoin de ta bonté dans sa vie, que ce soit physique ou psychique ou spirituel, dans sa famille, dans son couple, dans sa maison. Seigneur, bénis ce soir, puisque la porte est ouverte, puisque nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, puisque tu es sur le trône de la grâce et que tu pries pour nous. Mon Dieu, combien ça nous rassure de savoir que tu intercèdes pour nous même à la perfection. C'est pour ça que nous sommes bénis ce soir encore. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Nous sommes recueillis. Peut-être quelqu'un éprouve le besoin qu'on prie pour lui. Je crois que c'est bien de donner à chaque fois que nous nous réunissons l'occasion à quelqu'un de voir qu'on peut prier pour lui. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie qu'on prie pour moi. Je ne sais pas si on a un champ de prévu. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous réalisions que le Seigneur veut vous bénir. Je vais descendre. Si quelqu'un veut s'approcher, approchez-vous. On priera pour vous. Vous avez droit à la bénédiction, à la guérison. Rappelez-vous, il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous délivrer et pour nous rejoindre n'importe où sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni.